Bonjour. On va vous demander de vous avancer. On va commencer le cours. On m'a avisé que je dois terminer 5 minutes plus tôt ce matin. Et on a une grosse leçon. Ouais, il le faut. C'est les notes de ce matin. Vous avez vu que j'avais recommencé à vous envoyer vos notes par courriel? Oui? Excellent. C'est un avantage de mettre vos courriels dans le bottin de l'église. Ça m'a permis d'en retrouver. Il y en a qui ne me l'avaient pas laissé, puis je me suis souvenu. Je dis, ah oui, il était dans ma liste d'envoi, je me rappelle, puis les courriels étaient dans le bottin, donc ça m'a permis de vous retracer plus facilement. Donc, ça va bien ce matin? On a sauté une semaine la semaine dernière. J'ai entendu dire que c'était très intéressant sur la prière. Est-ce que vous étiez là?
Oui.
Bon, j'espère. Puis, c'était-tu bon? Super. Êtes-vous capable de vous souvenir de qu'est-ce qu'on a parlé il y a 2 semaines? On a parlé du royaume de Dieu, oui. Non, mais c'est vague, mais on est dans le sujet. OK, vous avez raison. La semaine dernière, on a étudié comment interpréter les Écritures prophétiques. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de certains principes qu'on a vus la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait? OK, on ne devait pas toujours prendre littéral. Maintenant, ça, c'est une conclusion, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en mesure de me dire, Paul, comment on est arrivé à cette conclusion-là? Comment on est arrivé à la conclusion que les Écritures prophétiques ne devaient pas nécessairement, même c'était pas un principe général de l'interpréter littéralement et que plusieurs fois, il fallait pas l'interpréter littéralement. Comment on est arrivé à cette conclusion-là? Bon, les arbres battront des mains, c'est sûr que c'est pas logique et ça, mais toutes les positions eschatologiques vont vous dire que ça, c'est pas logique, puis il n'y a personne qui va chercher à interpréter ça d'une manière littérale. Le problème, c'est les autres prophéties. Beaucoup de prophéties, notamment, qui ont un trait à Israël en tant que tel, et dont certains préfèrent ou veulent absolument avoir une interprétation littérale. On a étudié ensemble la christologie. Est-ce que c'est la christologie ou, en fait, on a regardé 3 figures messianiques. Laissez-moi vérifier mes notes. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, premièrement, on a vu qu'il y avait une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en matière d'eschatologie, en matière de doctrine de la fin des temps. Alors que l'Ancien Testament traite du salut de la nation d'Israël, on a vu que le Nouveau Testament, lui, s'intéressait davantage à la destinée de l'Église, n'est-ce pas? Ça, c'était la première distinction qu'on faisait. On a vu qu'il y avait 2 pensées concernant l'interprétation prophétique. Il y en avait une qui concluait que Dieu a 2 programmes différents, un pour Israël et un pour l'Église. Okay? Ce sont les dispensationalistes, principalement, pour ne pas dire uniquement, qui ont cette position-là. Ils sont très majoritaires dans notre milieu évangélique, si vous voulez. Aux États-Unis, le dispensationalisme est encore très, très fort. Eux croient que Dieu a 2 programmes. Un programme pour Israël. Et comme Israël a rejeté le Messie, Dieu s'est tourné vers l'Église. Et là, il a fait un programme spécial. Et à la fin, quand l'Église va être enlevée, il va reprendre le programme avec l'Église. C'est la conviction des dispensationalistes. Mais on a vu une autre école de pensée qui, dit que la manière d'interpréter les prophéties consiste à reconnaître que la révélation est progressive et d'interpréter le Nouveau Testament à la lumière du Nouveau Testament. Donc, que ce soit un amillénariste ou un prémillénariste, la conviction de ces positions-là, c'est qu'on ne doit pas interpréter les Écritures prophétiques, et je ne parle pas d'interpréter les Écritures en général, là, je parle des Écritures prophétiques, on ne doit pas interpréter les Écritures prophétiques de manière littérale parce que le Nouveau Testament est venu nous apporter une nouvelle révélation. Il est venu nous révéler des mystères qui étaient cachés dans l'Ancien Testament. Et donc, pour comprendre l'Ancien Testament, on doit le comprendre à la lumière de ces mystères-là du Nouveau Testament. Et donc, c'est cette la conviction des premiers historiques. Afin de comprendre comment est-ce qu'on doit interpréter les prophéties, on a considéré les prophéties concernant l'avenue du Messie. Alors, on a regardé ensemble les trois figures messianiques, vous vous souviendrez. On a regardé la figure du roi Davidique qu'on voit dans Ésaïe 11. On a vu la figure du Fils de l'homme de Daniel 7. Et on a parlé du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et on a vu que chacune de ces trois figures-là s'excluait mutuellement. On ne pouvait pas, à l'époque de l'Ancien Testament, concevoir que le Fils de l'homme qui revient sur un nuage est le Fils de David. Et on ne pouvait pas concevoir non plus que le Fils de David était le serviteur souffrant. Ça n'avait aucun sens, n'est-ce pas? Donc, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion-là? C'est seulement après la venue de Jésus, à la lumière de sa mission, que les trois figures messianiques ont pu être, de l'Ancien Testament, ont pu être réconciliées. Jésus et les apôtres après lui ont non seulement interprété les prophéties, mais ont réinterprété les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière de la personne et de la mission de Jésus. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Donc, on croit que c'est ce qui doit être fait aussi. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament doivent donc être interprétées à la lumière de leur accomplissement dans la personne et la mission de Jésus, et ça implique une réinterprétation. Et ce qu'on a vu, c'est que parfois, l'accomplissement est très différent de ce qu'on aurait pu s'attendre à la lecture de l'Ancien Testament. Donc, certaines des prophéties, on l'a mentionné, surtout les prophéties qui a trait à Jésus lui-même, ont été accomplies d'une manière assez littérale, plusieurs d'entre elles, n'est-ce pas? Et on l'a dit, ça avait son importance aussi parce qu'il fallait le reconnaître, ce Messie-là. Il fallait qu'il y ait des prophéties qui puissent s'accorder et dire « Ah oui, c'est toi qui es en train d'accomplir la prophétie. » Mais pour plusieurs des prophéties, on a vu que l'accomplissement était totalement différent de ce qui était prévisible à une première lecture de l'Ancien Testament. Et donc, notre conclusion de la semaine dernière était que, en matière de doctrine, que ce soit en christologie ou en eschatologie ou n'importe quelle autre doctrine, le fin mot de l'histoire doit être trouvé dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, c'est le Nouveau Testament qui doit nous éclairer sur ce qui était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous apporte une nouvelle révélation et c'est cette révélation-là qui nous aide à saisir l'Ancien Testament. Et on ne peut pas interpréter l'Ancien Testament sans tenir compte des enseignements des apôtres dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce qu'on peut continuer? Parfait. Cette semaine et la semaine prochaine, il reste seulement trois leçons en passant, ça va vite. Cette semaine et la semaine prochaine, on va se consacrer à la question d'Israël, okay, qui est une question fondamentale pour saisir le royaume de Dieu. C'est ce qu'on va voir plus la semaine prochaine. Cette semaine, on va saisir plus l'aspect d'Israël en rapport avec le plan de Dieu. Mais ce sont des questions qui sont absolument fondamentales pour comprendre le royaume de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Alors, la semaine dernière, on a établi le principe de l'herméneutique biblique, c'est-à-dire que l'Ancien Testament doit être interprété à la lumière de la révélation du Nouveau Testament. La question qui se pose maintenant ce matin est la suivante. Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne concernant Israël? Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs prophéties concernant Israël, n'est-ce pas? La question, c'est: puisque le Nouveau Testament doit venir jeter la lumière sur l'Ancien Testament, on doit s'interroger, qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne concernant Israël? Et conformer notre théologie à l'enseignement du Nouveau Testament, et non pas aller prendre des versets prophétiques de l'Ancien Testament et se dire « Ah, attends un petit peu, moi j'attends un accomplissement littéral de ça », alors que le Nouveau Testament va peut-être me dire que c'est déjà accompli d'une manière différente. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Si l'Ancien Testament voit le statut futur d'Israël, est-ce que le Nouveau Testament réinterprète les prophéties si radicalement qu'elles sont maintenant accomplies spirituellement dans l'Église? C'est une question qu'on va devoir se poser. Est-ce que Dieu a encore un plan pour le salut futur de son peuple d'Israël? Certains diront oui, et vous avez raison, mais on va voir qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne là-dessus. Alors, heureusement pour nous, la parole de Dieu adresse cette question avec beaucoup de détails dans le chapitre 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans Romains 9. On va passer une bonne partie de l'avant-midi, ben pas de l'avant-midi, mais de la leçon dans ce chapitre-là. Alors, voyons d'abord ce que Paul en dit. Paul, c'est l'apôtre des gentils, des non-juifs, n'est-ce pas? Et il amorce son argument en exprimant, au chapitre 9, là, il amorce son argument en exprimant sa tristesse pour ses frères et ses parents selon la chair parce qu'ils ont rejeté Jésus en tant que Messie. Les Juifs ont rejeté le Jésus en tant que Messie et Paul est triste de ça et vraiment, ça l'afflige beaucoup. Alors, dans Romains 9, au verset 2 à 5, il dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, pardon, qui sont les Israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Donc, son premier point qu'il va faire suite à ça, c'est que Israël, c'est-à-dire le vrai Israël spirituel, le vrai peuple de Dieu, n'est pas la même chose que la nation d'Israël qui descend d'Abraham selon la chair. Le premier point que Paul va faire ici dans Romains 6, il va expliquer que le vrai Israël n'a rien à voir avec l'Israël national tel qu'il était dans l'Ancien Testament. Et on lit ça dans Romains chapitre 9, versets 6 à 7. Il dit « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Le point est assez clair, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. « Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. » Donc, le premier point que Paul fait, c'est que tous ceux qui se disent israélites, qui sont des descendants d'Abraham, selon la chair, ne sont pas Israël. Et on se souvient des promesses sont faites à Israël dans l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament nous révèle que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas Israël. Premier point. Ensuite, Paul rappelle l'histoire d'Abraham pour prouver que la vraie descendance n'est pas celle de la loi, mais celle de la promesse. N'est pas celle de la chair, mais celle de la promesse. Alors, il nous parle d'Ismaël, qui nous dit qu'Ismaël, évidemment, est aussi un des fils d'Abraham, mais qui ne fait pas partie de sa descendance spirituelle. Alors, dans Romains 9, toujours au verset 8, il dit, « C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. » Alors, vous voyez l'argument de Paul? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les descendants d'Abraham. Ce sont les descendants de la promesse. Dieu, il nous parle un peu plus loin que Dieu a choisi Jacob et rejeté Ésaü. En fait, pas plus loin. Dans Romains 9, 13. Et il cite évidemment Malachie 1, 2 à 3. Pour nous dire justement que Dieu a fait un choix avec Jacob et a rejeté Ésaü. Est-ce qu'Ésaü était un descendant d'Abraham?
Ben oui.
Alors, mais Ésaü a été rejeté. Pourquoi? Parce que la descendance d'Abraham, ou les fils d'Abraham, qui doivent hériter la promesse, qui doivent hériter, en fait, oui, la promesse de Dieu, ce sont les enfants qui descendent d'Abraham, mais qui descendent de la lignée, comment est-ce que je dirais bien ça? Là, je ne l'ai pas écrit, je vais essayer de le formuler autrement. Les enfants qui vont hériter la promesse de Dieu, ce sont les enfants qui descendent de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et on l'a vu, on va le revoir encore plus loin, que le fait que Abraham a cru à Dieu, ça lui est imputé à justice. Et donc, que ce sont les descendants, les enfants de la promesse qui sont les enfants d'Abraham et non pas les enfants selon la chair. Donc, la vraie descendance d'Abraham, le vrai Israël, doit être déterminée, non par les liens physiques naturels, mais par l'élection divine et la promesse de Dieu. Okay, je vais le répéter parce que j'ai l'impression que j'étais confus dans mon exposé précédent. La vraie descendance d'Abraham, le vrai Israël, doit être déterminée non par le lien physique naturel, mais par l'élection divine et la promesse. Dieu a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. C'est l'élection qui détermine qui sont les enfants d'Abraham. Et la conclusion de Paul est très claire. Ce ne sont pas tous les Juifs du temps de Paul qui peuvent se dire « Israël, le peuple de Dieu », mais seulement ceux qui ont la foi d'Abraham, prouvant qu'ils sont ainsi les fils de la promesse. Oui, Bertrand. Ben, ouais, il faudra que je le répète un petit peu, mais en fait, pas tout à fait. Mais dans le cas de la promesse, Dieu a fait une promesse à Abraham, OK, tu vas avoir une descendance par Sarah. On le sait, Abraham, ce qu'il a fait, il est allé, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, il a donné sa servante, il a eu Ismaël, etc. Dieu a dit, non, c'est vrai qu'Ismaël, c'est ton enfant, là, puis je vais faire de quoi avec lui. Mais c'est pas, la promesse, là, c'est pas pour lui. La promesse, là, c'est je t'ai dit que tu aurais un enfant avec Sarah. Et par la suite, Dieu a continué à faire son choix. Il y a eu Isaac, et lorsqu'il y a eu Jacob et tout ça, Jacob et Ésaü, Dieu a fait un choix, il a choisi Jacob. Il aurait pu choisir Ésaü aussi, c'est un descendant d'Abraham, mais non. Donc, et ce qui est écrit avec l'histoire d'Ésaü et de Jacob, c'est que c'est le dessein d'élection de Dieu qui s'est manifesté à ce moment-là. Dieu a choisi un et a rejeté l'autre. Sur quelle base? Sur la base de l'élection de Dieu. Okay? Et il est clairement indiqué d'ailleurs dans le texte que c'était avant qu'il ait fait quoi que ce soit de bien ou de mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Donc, c'était pas parce que Jacob était vraiment plus smart que l'autre. Au contraire, Jacob, son nom voulait dire fourbe, hein? Voulait dire le croche. Je m'en vais faire une joke, mais je ne la ferai pas. Oui. Toi, tu es un fils d'Ésaü. Laisse-moi juste répéter en même temps, d'accord, si tu me permets, oui.
Et que je mets ma confiance en Dieu sur les promesses qu'Abraham a eues.
Et que tu mets ta confiance en Dieu sur les promesses qu'Abraham a eues.
Ne suis-je pas compté comme un fils d'Abraham?
Est-ce que tu ne serais pas compté comme un fils d'Abraham?
À cause de la foi.
À cause de la foi. Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, ça serait comme ça que ça fonctionnerait définitivement. OK? Et si Ésaü avait eu cette foi-là, regarde, on parle d'un autre dispo. Oui, absolument. On sait qu'il n'a pas mis sa foi en Dieu, OK? Oui. Ben oui. Ben exactement. Alors, un fils d'Ésaü, si on parle de notre époque, ou de l'époque au moment où Jésus arrive... Non, parce qu'à ce moment-là, Dieu a fait une alliance avec le peuple. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, c'était le peuple qui était dans son alliance. Okay, dans sa promesse. À ce moment-là, c'était pas nécessairement possible pour un fils d'Ésaü d'entrer, de faire partie. Il pouvait croire en Dieu, mais il faisait pas partie de l'alliance. Okay? On parle de dispensation ici, effectivement. Dieu a traité avec les hommes de différentes manières à différentes époques. Et il y a eu l'époque d'Abraham, ensuite il y a eu l'époque, évidemment, de Moïse avec la loi et tout ça. Et Dieu fait une alliance avec son peuple. Okay? Et oui.
L'élection physique, mais selon l'élection du cœur de Dieu, celui qui croit en Dieu.
Oui, mais là, tu es en train d'essayer de me dire, est-ce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui disait, moi, je crois en Dieu, est-ce qu'il pouvait être sauvé?
Croire aux promesses d'Abraham.
Bien, a priori, s'il croyait aux promesses d'Abraham, il fallait qu'il entre dans l'alliance de Dieu et qu'il se fasse circoncire. OK? Alors, tu comprends-tu qu'il ne pouvait pas dire, non, moi, je crois, puis je crois aux promesses, puis je suis sauvé? C'était pas comme ça que ça fonctionnait. À ce moment-là, mais absolument, mais n'importe qui à ce moment-là des autres nations pouvait se convertir à Israël. Tu comprends-tu? Absolument. Dans l'ancienne alliance, les gens pouvaient se convertir à Israël, ils se faisaient circoncire et ils entraient dans l'alliance de Dieu à ce moment-là. OK? Et ils pouvaient participer à la bénédiction de la promesse. Mais c'est un aparté, on s'écarte un petit peu du sujet. Le point ici, OK, c'est que Paul exprime clairement dans Romains 9 que tous ceux qui sont descendants d'Abraham ne sont pas Israël, et que ceux qui sont Israël, ce sont ceux qui sont enfants de la promesse ou qui ont la foi d'Abraham pour être ses enfants. C'est ce que Paul exprime dans Romains. Alors... Je crois que j'ai juste skippé ici. La conclusion de Paul est claire. Donc, ce ne sont pas tous les Juifs du temps de Paul qui peuvent se dire Israël, mais seulement ceux qui ont la foi d'Abraham, prouvant ainsi qu'ils sont fils de la promesse. Donc, on voyait déjà ce principe-là énoncé dans le chapitre 2 de Romains, dans Romains 2, 28-29. Paul dit, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Voyez-vous? Donc déjà, Paul, dans son épître aux Romains, commençait à préparer le terrain qui va définir au chapitre 9 que Le juif, là, c'est là où on vit dans, il vivait dans une époque où, évidemment, tu avais les peuples très, très, très séparés, la nation juive avec la religion juive. Mais là, Paul dit, attends, c'est pas ça, là. Okay? Le juif, ça n'a rien à voir. La circoncision, c'est pas ça du tout. Et notez ici, je vais vous le relire, qu'il dit, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur. Et là, il est écrit, selon l'esprit et non selon la lettre. Selon l'esprit et non selon la lettre. Et ça ici, à mon sens, c'est un coup qui est très dur porté à ceux qui s'attendent à des réalisations littérales des prophéties de l'Ancien Testament. Parce que selon l'esprit et non selon la lettre peut se comprendre et doit se comprendre, en fait, si on lit le texte littéralement, spirituellement et non littéralement. Alors voyez-vous, ce que Paul est en train de dire, là, si je le traduis dans notre langage ici, là, ça serait le juif, là, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, spirituellement et non pas littéralement. Donc, le juif, c'est pas celui qui est le juif littéralement, c'est celui qui est le juif spirituellement. Ça, c'est le vrai juif. Ben, la lettre, mais c'est littéralement le mot qui est écrit, Mme Soulière. OK. Mais la... Nous, on interprète souvent la lettre comme étant la loi, OK, mais c'est la lettre de la loi. La lettre, ça veut dire littéralement. On doit continuer parce qu'on m'a dit que je devais finir un petit peu plus tôt. Mais le principe est très clair ici, OK? C'est le vrai juif, c'est celui qui l'est spirituellement, c'est pas celui qui l'est littéralement. C'est ce que Paul dit au chapitre 2, verset 29. Donc, le vrai Israël, c'est l'Israël spirituel et non pas l'Israël littéral. Ce concept de la circoncision spirituelle versus la circoncision physique n'est pas non plus unique à Paul. Il n'y a pas juste Paul qui enseigne ça. Paul, en fait, ne fait que répéter une idée qui est déjà présente dans l'Ancien Testament, puisque l'Église était prévue dans l'Ancien Testament, c'est juste qu'elle était cachée, on ne le voyait pas. Mais Jérémie 4:4 disait ceci au peuple d'Israël, il disait « Soyez circoncis pour l'Éternel ». Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Le sens spirituel de ces exhortations-là n'était pas compris au temps de Jérémie. Donnez-moi deux secondes. Donc, le sens spirituel de cette exhortation-là n'était pas compris au temps de Jérémie. Elle exprimait déjà, par contre, que l'obéissance extérieure aux lois de Moïse ne fait pas de quelqu'un un vrai fils d'Abraham, lui assurant la faveur de Dieu. Il doit y avoir une consécration de cœur, sinon la colère va frapper. Donc, Jérémie disait au peuple, vous êtes des Juifs, là, vous êtes le peuple d'Israël, là, puis vous accomplissez la loi de Moïse, puis vous êtes circoncis, mais c'est pas suffisant. Convertissez vos cœurs, sinon ma colère va vous atteindre. Donc, cette exhortation à ce que juste de faire la loi de manière extérieure n'était pas suffisant, était déjà présent dans l'Ancien Testament. Le cœur devait y être. Et ce principe-là se retrouve aussi dans deux versets d'Apocalypse, Apocalypse 2, 9, quand Jésus dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Dans Apocalypse 3, 9, un chapitre plus loin. « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils connaîtront que je t'ai aimé. » Donc, on voit ici que des gens qui se disent juifs, ce sont ceux qui se disent juifs de par leur naissance, hein? N'est-ce pas? Ce sont des juifs, des vrais juifs charnels, si on veut, selon la chair. Mais qu'en fait, selon Apocalypse, sont une synagogue de Satan parce qu'ils rejettent Jésus et ils persécutent les disciples. Donc, le principe, encore une fois, et qu'on veut faire le point ici ce matin, c'est que ce n'est pas parce que un être humain est un descendant d'Israël, fait partie de des 12 tribus et fait partie d'Israël, qu'il est l'Israël à qui la promesse de l'Ancien Testament a été faite. La promesse de l'Ancien Testament a été faite à Israël et Paul... Et le Nouveau Testament nous explique ce qu'est Israël. Et le premier point qui est fait ici ce matin, c'est que Israël, ce n'est pas les descendants physiques d'Israël en tant que tel, de Jacob. Ensuite, Paul répond à l'objection qui veut que si tout cela est vrai, si notre salut ne dépend que de l'élection de Dieu et non pas de notre descendance, parce que vous savez que les Juifs, eux, se glorifiaient d'être des descendants d'Israël. Hein? Les promesses, c'est nous qui les avons eues. Et ils voulaient absolument se les approprier. Et Paul dit que c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, il explique en disant que si tout ça est vrai, si le salut dépend que de l'élection de Dieu et non pas de la descendance, ça signifierait que Dieu est injuste. Et Paul répond dans Romains 9, 20 à 21. Et je vous encourage à aller relire le chapitre 9 au complet. Hein. Relisez-le, vous allez voir que les conclusions qu'on tire sont pas... Il ne peut pas y avoir d'autres conclusions que ça. Alors, Romains 9, 20, 21. « Toi, plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi mets-tu fin ici? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et on interprète souvent ce verset-là dans le sens de l'élection ou du rejet d'un individu, des individus en tant que tels. Mais dans le contexte, c'est d'Israël dont il est question ici. Okay? C'est pas une erreur doctrinale d'appliquer ce texte-là, mais Paul a en tête, lorsqu'il dit Romains 9, l'histoire de la rédemption et d'élection de Jacob pour être l'héritier des promesses faites à Abraham, que Dieu a supporté avec une grande patience la rébellion et l'apostasie d'Israël selon la chair. C'est ça que Dieu a supporté. On le voit deux versets plus loin, dans Romains 9, versets 22 et 23. « Et si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Ces vases de colère formés pour la perdition, c'est les descendants d'Israël que Dieu a supportés. « Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Donc, en d'autres termes, Dieu a été patient devant l'incrédulité d'Israël selon la chair, de manière à montrer sa miséricorde à l'Israël spirituel qui est le véritable Israël. Encore une fois, le véritable Israël, c'est-à-dire celui à qui les promesses de l'Ancien Testament ont été faites. Paul reprend cette idée un peu plus tard dans Romains 11, 11, et il dit, « Je dis donc, Israël ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut de Dieu a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie, la jalousie des Juifs. » Donc, Dieu a un but dans l'incrédulité et la chute d'Israël. C'est pas que Dieu a laissé, c'est pas que Dieu s'est lassé d'Israël ou qu'il l'a abandonné, mais Dieu se sert de la chute d'Israël pour offrir le salut aux païens. Je pense que tout le monde va être d'accord ici avec ce principe-là. Paul continue dans cette logique-là, dans la suite du passage. On est rendu au verset 23 et 24. Il dit, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de la gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qui sont les vases de miséricorde, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, les vases de miséricorde qui ont été préparés pour la gloire sont constitués non seulement de Juifs, mais de païens. » Paul fait alors une chose qui est complètement étonnante. Il va citer un passage d'Osée. C'est important que vous me suiviez ici. Qui, dans son contexte de l'Ancien Testament, réfère clairement à Israël. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va l'appliquer à l'Église qui est composée principalement de non-juifs. Paul va prendre une prophétie de l'Ancien Testament, de Osée, qui est clairement une prophétie pour Israël, et il va dire, cette prophétie-là est maintenant accomplie, mais comment? Dans l'Église, qui est composée de juifs et de non-juifs. Je vais vous la donner, la référence d'Osée. On va même le regarder ensemble. Plus qu'une référence, hein? On va en profondeur. Alors, je m'excuse parce que les lumières me font des éclats, puis j'ai de la misère à lire. Alors, il va l'appliquer aux Juifs. Et il fait ça, donc Paul fait ça justement pour prouver que l'Ancien Testament a prévu l'Église. Alors, d'abord, on va lire ce que Paul écrit dans Romains 9, 25-26. On continue notre étude du chapitre 9 de Romains. Alors, comme il le dit dans Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où l'on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Alors, Dieu avait commandé à Osée de prendre une femme prostituée pour représenter la prostitution d'Israël avec les autres dieux. Pour ceux qui ont lu Osée, vous vous en souviendrez. Dieu dit, c'est Osée chapitre 1, en passant, Osée 1, 1-6. Dieu dit donc à Osée à propos de sa deuxième fille, tu lui donneras le nom de Lo-Ruhama, qui veut dire plus de compassion, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël. Lo-Ruhama, c'est la maison d'Israël, plus de compassion pour la maison d'Israël. Et je ne lui pardonnerai pas donc indéfiniment. Osée a un troisième enfant, un fils, et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Lo-Ami voulait dire pas mon peuple. Et moi, je ne suis rien pour vous, au verset 9 de Osée 1. Alors, Dieu donc prophétise qu'il va rejeter Israël, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec ça? Dieu prophétise qu'il va rejeter Israël. Mais dans le verset suivant, Osée dit que le rejet d'Israël ne sera pas final. Et donc, au verset suivant, Osée annonce immédiatement le salut futur d'Israël. Osée prophétise le rejet d'Israël, et au verset suivant, il prophétise le salut d'Israël. Mais là, c'est différent, le salut d'Israël. Osée 1, verset 10, ou 2, verset 1, dépendamment de vos Bibles. Pourtant, le nombre, après avoir dit que t'es pas mon fils et que je te pardonnerai pas toujours et que j'aurai pas toujours de miséricorde, pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer. Remarquez que c'est la même prophétie qui avait été faite à Abraham. Hein? Qui ne peut se mesurer ni se compter à l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. En ce jour-là, au verset 23 ou 25 du chapitre 2, dépendamment de vos versions. En ce jour-là, je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de Lo-Ruhama, qui est, je n'ai pas compassion de la maison d'Israël, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu. Donc ici, à deux endroits différents, dans Osée 1.10 et dans Osée 2.23, les prophéties qui, dans le contexte, réfèrent à Israël selon la chair, sont appliquées par Paul à l'Église non-juive du Nouveau Testament. La promesse faite à Israël trouve son accomplissement où? Dans Israël, l'Israël spirituel, l'Israël véritable, l'Israël de la promesse, qui n'est pas l'Israël selon la chair, selon ce que Paul nous a clairement indiqué au chapitre 9 de Romains. En d'autres mots, ne bougez pas, j'ai peut-être sauté juste un... Oui, je vais sauter quelques points ici. Donc, on voit dans le texte que le rejet d'Israël selon la chair et le salut, on voit dans le texte plutôt le rejet d'Israël selon la chair et le salut de l'Israël spirituel. On a ici le même phénomène que dans le domaine de l'eschatologie qu'on a vu ou dans le domaine de la christologie. Même chose. Les concepts de l'Ancien Testament sont radicalement réinterprétés pour leur donner une application qui était totalement imprévue dans l'Ancien Testament. Ce qui s'appliquait à l'Israël littéral dans l'Ancien Testament s'applique désormais à l'Église constituée de juifs et de non-juifs, dans Romains 9, 25. En d'autres mots, Paul voit la réalisation spirituelle d'Osée 1, 10 et 2, 23 dans l'Église. Il s'ensuit donc inévitablement que le salut de l'Église non-juive est la réalisation des prophéties faites à Israël. C'est pourquoi on peut parler de l'Église comme étant le nouvel Israël ou le vrai Israël ou encore l'Israël spirituel. Est-ce que vous comprenez ces points-là ici? C'est fondamental. Okay? Dieu a fait des promesses à Israël dans l'Ancien Testament? Sûr. Est-ce que Israël a marché dans les voies de Dieu? Non, Israël a rejeté Dieu. Dieu, est-ce qu'il a accompli ses promesses à Israël? Oui, parce que c'était déjà prophétisé qu'Israël, c'était pas les descendants. Qu'Israël, c'était ceux qui auraient la foi d'Abraham. Et c'est ce que Paul nous explique. Les Juifs, c'est pas ceux qui sont les Juifs dans la chair. La circoncision, c'est pas la circoncision de la chair. Le vrai Juif, c'est celui qui l'est dans le cœur. Et celui qui l'est spirituellement. Et ça, c'est les chrétiens. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Cette conclusion est aussi supportée par des passages où Paul parle des croyants comme des enfants d'Abraham spirituellement. On est toujours dans Romains, mais au chapitre 4, versets 11 et 12. Et il reçut, en parlant d'Abraham, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Ainsi, Il est ainsi plutôt le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis qui, non pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de leur père Abraham. Ça, c'est super intéressant. Là. Parce qu'encore une fois, Paul est en train de dire que la circoncision, c'est rien. OK? Je vous le relis. Okay. Abraham a reçu le signe de la circoncision, et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent. Donc, c'est bien beau de dire que t'es circoncis, mais Abraham va être vraiment ton père si t'as pas juste la circoncision, mais si en plus tu marches sur les traces de la foi de ton père Abraham quand il était incirconcis. Abraham est donc le père des croyants, juifs et non-juifs. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, nous dit Galate, mais c'est d'être une nouvelle créature. La conclusion est certaine, il n'y a aucun doute possible, ce sont les croyants, juifs et non-juifs, qui sont les vrais enfants d'Abraham, et donc le vrai Israël, et donc ceux à qui les promesses de l'Ancien Testament ont été faites. On se rappelle que Paul a expliqué que le vrai juif, c'était celui qu'il était spirituellement, dans Romains 2, 28-29. Romains 4-16 nous dit « Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » Et Galates 3-7 disait, Paul encore dit, « Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. » Donc, Paul, c'est pas juste dans Romains qui s'est évertué à faire comprendre aux gens que le vrai juif, c'était celui qui avait la foi d'Abraham. Dans presque, non, pas dans, je dirais pas dans presque tous les épîtres, mais dans plusieurs de ses épîtres, il revient avec ce thème-là. Et c'est normal, puisque un des gros problèmes que Paul avait dans les églises, c'était les judaïsants. Hein, les judaïsants qui voyaient les non-chrétiens arriver, puis qui, les non-chrétiens, les non-juifs arriver, pardon, et qui leur disaient, mais là, ça n'a pas de bon sens que ces gens-là aient accès à toutes les promesses que nous, on a. Il faut absolument qu'ils suivent la loi. Et donc, Paul combattait les judaïsants en leur disant, non, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire. C'est rien, la circoncision. Circoncisez vos cœurs, par exemple, parce que c'est spirituellement que vous devez faire partie d'Israël. Pour les dispensationalistes, une herméneutique qui spiritualise les prophéties est la façon la plus dangereuse d'interpréter l'Ancien Testament. Et je cite John Walvoord dans The Millennium Kingdom, écrit en 1959. Pour les dispensationalistes, et je sais que plusieurs ici ont déjà reçu des enseignements dispensationalistes, moi le premier, mais eux croient que de spiritualiser les prophéties, c'est la manière la plus dangereuse d'interpréter les Écritures. C'est drôle parce que les apôtres, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont pris les prophéties de l'Ancien Testament adressées à Israël. Par le Saint-Esprit, ils ont eu la révélation que l'Israël, qui était la promesse d'Abraham, qui était les descendants d'Abraham, c'était l'Église. Et ils ont appliqué les prophéties. Ils ont démontré que les prophéties étaient accomplies. Et certaines, évidemment, sont encore à venir. Ils vont dénigrer cette interprétation-là plus spiritualisante en disant que c'est cette herméneutique qui caractérise l'Église catholique romaine. Encore une fois, John Walvoord dans The Millennium Kingdom. Le présent auteur, George Ladd, donc, croit, et j'ai pas besoin de vous dire que c'est ma conviction aussi, qu'on doit adopter une herméneutique qui spiritualise les prophéties parce qu'on constate que c'est exactement ça que le Nouveau Testament fait. Et le Nouveau Testament, il est là pour jeter une lumière sur l'Ancien Testament. Il est là pour me révéler ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Et si je prends l'Ancien Testament et je ne tiens pas compte de ce que Paul nous a expliqué et de ce que Pierre nous a dit sur le fait que Joël est accompli et toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui sont manifestement appliquées à l'Église dans le Nouveau Testament, si je n'en tiens pas compte et je me dis non, Dieu a dit qu'il y aurait un fleuve qui va jaillir du désert pour ne reprendre que cette expression-là, puis j'attends que ça arrive alors que Jésus dit c'est parce que ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive vont jaillir de lui, puis la prophétie est accomplie. Alors, pour moi, c'est de ne pas avoir saisi l'enseignement du Nouveau Testament par rapport à Israël. Et c'est très, très, très important, puisqu'on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu dans nos vies, et on parle de l'accomplissement de toutes ces promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament, qui sont à nous maintenant, ces promesses-là, et qui s'accomplissent en Jésus-Christ, et qui vont s'accomplir aussi dans l'éternité. Les prophéties donc qui s'appliquent à Israël dans l'Ancien Testament trouvent leur réalisation dans l'Église du Nouveau Testament. Maintenant, Est-ce que ça veut dire, et il faut absolument faire ce dernier point ici avant de conclure, est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté son peuple d'Israël? Non, non. La Bible le mentionne et Romains, Paul dans Romains 11, le précise aussi. Et on va le regarder ensemble, juste pour remettre les choses en perspective. Maintenant qu'on a vu d'une manière claire que, que le Nouveau Testament enseignait que l'Israël, le véritable Israël, c'est l'Église, qu'est-ce qui arrive avec l'Israël national? Est-ce que Dieu a encore quelque chose pour ces gens-là? Et la réponse est oui. Mais on va regarder ensemble qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur l'Israël national et non pas qu'est-ce qu'on s'imagine que l'Ancien Testament nous dit puisque l'Ancien Testament doit être interprété à la lumière du Nouveau. Allons voir ensemble dans Romains 11 qu'est-ce que Paul dit de l'Israël selon la chair. Alors, si donc l'Église est le véritable Israël, Dieu a-t-il rejeté son peuple Israël selon la chair? Paul répond à cette question dans la suite du texte de Romains 11 et il pointe vers le salut futur d'Israël selon la chair. Alors, Romains 11 au chapitre 15, on va voir, c'est l'olivier, hein, toute la métaphore de l'olivier qui est mentionnée là, qui est très, très, très édifiante. Alors, Paul dit au verset 15 de Romains 11, « Si leur mise à l'écart, en parlant des Juifs, a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? » Alors, il dit, si parce que les Juifs ont été endurcis, le salut a été offert aux nations, mais quelle gloire ça va être lorsqu'Israël va se convertir. C'est ça que Paul est en train de dire. Il illustre donc le principe avec la fameuse métaphore de l'olivier. Et notez que l'olivier représente un peuple de Dieu unique. Ceux qui croient qu'il y a deux peuples de Dieu, Israël et l'Église, si vous lisez comme faux la métaphore de l'olivier, il n'y a pas deux peuples. Il n'y a rien qu'un olivier. Un olivier qui est le peuple de Dieu, sur lequel est greffé l'Église, les non-chrétiens, mais les non-juifs, et sur lequel il y a des Juifs. C'est pas deux peuples de Dieu, c'est un seul peuple de Dieu. Et je crois qu'il faut en être vraiment, vraiment, faut en être conscient. Donc, les branches naturelles ici qui sont représentées par les Juifs ont été retranchées, et des branches sauvages, les païens, ont été greffées sur l'olivier cultivé. Paul avertit les païens qui ont pris la place d'Israël de ne pas se glorifier, car Dieu est capable de les retrancher. Donc, Paul est en train de dire, là, vous autres, là, vous étiez des non-juifs, et Dieu vous a fait une grâce extraordinaire, il vous a fait entrer dans son peuple, l'olivier, et vous a greffé. Mais s'il vous plaît, là, pètez pas plus haut que le trou. Enflez-vous pas d'orgueil à cause de ça. Gardez-vous une petite gêne, les amis. Ayez la crainte de Dieu, là. Si Dieu était capable de retrancher Israël, le peuple national à qui a fait des promesses à la base, je dirais, il pourrait peut-être vous retrancher aussi. Là. Soyez humbles là-dedans. C'est pas là, Israël ne valait rien, là, puis moi, nous autres, maintenant, c'est ça. Non, 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 gardez-vous une petite gêne. Là. Et qui, Israël, là? Paul le mentionne aussi dans Romains au début, que quel avantage hein, y a-t-il d'être juif? C'est parce que les autres, ils ont reçu les oracles de Dieu, là, ils ont reçu la loi, ils ont reçu les révélations, ils ont reçu plein de choses, ils ont été vraiment, c'est un peuple choisi de Dieu à la base. Alors, allez pas là vous mettre dans la tête que c'est rien, là puis que vous pouvez les tasser du revers de la main. OK? Paul avertit les païens, donc, de ne pas s'en glorifier. De la même façon, donc, Dieu peut regreffer les Juifs sur l'olivier, mais quelle est la condition pour qu'ils soient regreffés? Quelle est la condition? Qu'ils arrêtent d'être incrédules. Voilà. Alors, Dieu, là, il a retranché Israël du peuple de Dieu, l'Israël national du peuple de Dieu. Il y en a qui sont restés parce que il y a des Juifs chrétiens, puis je veux dire, si je ne m'abuse, il me semble que les apôtres étaient tous des Juifs. Hein? Je ne sais pas. Il me semble que oui. Pas parce qu'il n'y a pas de Juifs qui se sont convertis, là. Quand aux premières prédications, Dieu ajoute 3000 hommes, c'est des Juifs, ça, là. C'est pas des non-Juifs. OK? Plus tard, ça s'est étendu. OK? Mais le fait est que une bonne partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que le salut soit offert aux païens. Paul dit, glorifiez-vous pas trop, partez pas en peur avec ça. Méprisez pas le peuple d'Israël, parce que Dieu est capable de les ramener, mais sous quelles conditions? S'ils ne sont plus incrédules. Quelle est la condition pour que Dieu ramène Israël dans le Israël national, j'entends, dans le peuple de Dieu? Mais qu'ils commencent à croire au Messie, comme on fait nous autres. Présentement, ils croient pas au Messie. Oui, je vais t'accorder j'ai pas beaucoup de temps. Oui. Oui. OK, on va. Tu me parles de Romains 11, 25, 27. On va y venir. Alors, je vais. Mais la raison est écrite clairement. S'ils ne sont plus incrédules, OK, ça, c'est une cause à effet ici, là. Si tu veux revenir, la seule condition, là, c'est arrête d'être incrédule. C'est sûr que Dieu a un plan d'élection pour eux autres. OK? Mais quel est le plan d'élection de Dieu pour Israël? Est-ce que c'est de ramener Israël national en Palestine avec un temple puis revenir au sacrifice? Non, je pense pas. Non, le plan de Dieu, c'est qu'Israël se convertisse et reconnaisse celui qu'ils ont percé et qu'ils croient en Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Israël national. OK, je vais continuer. Romains 11, 24. Toujours l'histoire de l'olivier. On est dans le même contexte. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, contrairement à ta nature, greffé à l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Paul donc résume la situation ici au verset 25 et 27, ce que Sylvain mentionnait tantôt. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Mystère étant quoi? Quelque chose qui était caché qui est maintenant révélé. « Quel est donc ce mystère? Afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. » Et le but, encore une fois, donc, de Paul était que les chrétiens non-juifs ne s'enflent pas d'orgueil et ne se mettent pas à mépriser l'Israël national. Donc, je veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, parce qu'évidemment, il y avait des Juifs qui se convertissaient, donc c'était pas tout Israël, c'était une partie d'Israël qui était dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voici donc l'ordre divin dans l'histoire de la rédemption. Il y a des branches naturelles sur un olivier cultivé. C'est le peuple de Dieu, c'est Israël national à ce moment-là. Les branches naturelles sont retranchées. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Les branches sauvages, les non-juifs, sont greffés sur l'olivier. On fait maintenant partie du peuple de Dieu. Et les branches naturelles doivent encore être regreffées. Dans quelles conditions? S'ils arrêtent d'être incrédules. Ils ont été retranchés parce qu'ils étaient incrédules. S'ils arrêtent d'être incrédules, ils vont être regreffés. Israël trébuche sur la pierre d'achoppement qui est Christ, mais pas pour toujours. Romains 11, 25, 26, il y a endurcissement d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon... En fait, c'est ce que je viens de lire. Donc, le « jusqu'à » indique qu'il y a un temps prévu dans le plan de Dieu où Dieu va susciter un réveil, je dirais. Je pense que c'est la meilleure expression que je pourrais dire. Va susciter un réveil en Israël, pas pour qu'il retourne au sacrifice, pour qu'il reconnaisse Jésus-Christ et soit regreffé sur l'olivier. Tout Israël signifie pas nécessairement chaque Juif qui a vécu. Il parle de l'histoire de la rédemption d'Israël. Mais le jour vient où tout Israël, c'est-à-dire la vaste majorité d'Israël, ou encore, ça c'est deux interprétations possibles, ou encore le nouvel Israël, incluant l'Église, sera sauvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout Israël? On n'est pas tout à fait certain. Ça pourrait être la majorité d'Israël ou ça pourrait être Israël, c'est-à-dire l'Israël véritable, incluant l'Israël national. On pourrait souhaiter que Paul ait écrit davantage sur la manière dont Israël va être sauvé, mais à ce point-ci, on ne peut que spéculer. Le mot « le libérateur viendra de Sion » pourrait bien faire référence à la deuxième venue de Jésus. Mais encore une fois, on n'est pas certain de ça. Une des raisons de sa venue sera certainement la rédemption d'Israël, quand le Seigneur va revenir, qu'il s'agisse d'Israël selon la chair, qui se repent et qui croit en Jésus-Christ, ou de l'Israël spirituel, l'Église, ou encore de tout Israël juif croyant en masse et l'Église réunie. Cependant, il y a deux choses qui sont claires. Israël doit être sauvé de la même manière que l'Église, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ et en leur Messie. C'est ce que Romains 11, 23 nous dit. Alors ça, c'est super important. De quelle manière est-ce qu'Israël, selon la chair, va être sauvé? Bien, c'est en croyant en Jésus, comme nous autres. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé que ça. Okay? Et ça aussi, c'est super important. Qu'est-ce qui arrive avec le temple? L'Ancien Testament promet en détail un temple restauré, okay? Qui n'est pas évidemment arrivé encore. Je vais juste vous faire une petite parenthèse ici en citant Ézéchiel 47, verset 12. Okay? En fait, Ézéchiel 47, le chapitre au complet, qui parle de ce temple-là et qui le décrit. Et qui parle de ce temple-là d'où, dessous le sanctuaire, jaillit une source d'eau qui devient un fleuve immense. Et je vous pose la question à savoir si ce texte-là ne serait pas déjà accompli en Jésus-Christ. Jésus dit lui-même, « Je suis le temple ». Il y a toute une étude, d'ailleurs, sur qui est le temple, que Jésus est le temple de Dieu. On pourrait y revenir. Mais le fait est que la prophétie d'Ézéchiel ne s'est pas accomplie d'une manière littérale avec un temple construit 12 par 12, etc. Là. Mais c'est accompli spirituellement en Jésus-Christ. Alors, et là, c'est super important, et je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que je le fasse. On tombe dans Hébreux, Hébreux 10. Okay? Le livre d'Hébreux répond à la question par rapport au temple. Hébreux 10, 11. « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation de la réalité. » Le temple physique, ce n'est pas la réalité. C'est une ombre des choses à venir. Premier point. « L'ombre a rempli son objectif. Christ est entré dans le véritable tabernacle dans les cieux où il agit comme souverain sacrificateur. » Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'Hébreux nous dit. « L'ombre a rempli son objectif. » Est-ce qu'on va revenir à l'ombre? Non, on ne reviendra pas à l'ombre. Christ est déjà entré dans le véritable sanctuaire dans le ciel. Il est difficile donc de concevoir que le plan rédempteur de Dieu retournerait à cette ombre. Hébreux 8, 6 et 7. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, pardon, d'une alliance meilleure ici, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Le point remarqué ici, c'est que l'Épître aux Hébreux contraste entre la nouvelle alliance faite par le Christ et l'ancienne alliance faite avec Moïse. Suivez-moi bien ici, là, c'est super important. Si la première alliance avait été réprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une autre. L'Épître aux Hébreux le prouve par une longue citation de Jérémie. Jérémie 31, 31, 34. Et je vous le lis encore une fois. Jérémie 31, 31, 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, et suivez bien ici, avec qui Dieu fait cette promesse-là ici, avec la maison d'Israël, je vais faire une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » On a encore ici le phénomène qu'on a déjà expliqué dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament réinterprète la prophétie de Jérémie dans l'Ancien Testament à la lumière de la nouvelle révélation et l'applique à l'Église, une prophétie qui était littéralement destinée à Israël. Dieu promet à Israël une nouvelle alliance. Vrai? C'est vrai ça? À qui est-ce que Dieu a fait la promesse d'une nouvelle alliance? Est-ce que cette nouvelle alliance-là est inaugurée maintenant? C'est qui a inauguré la nouvelle alliance? C'est Jésus. Est-ce que moi, je fais partie de la nouvelle alliance? Est-ce que donc la promesse faite à Israël s'applique à moi? Tout à fait. S'applique à l'Église. Inconnue dans l'Ancien Testament, révélée dans le Nouveau Testament. Alors, il est extrêmement difficile de croire, et encore une fois, suivez-moi ici mon raisonnement, il est extrêmement difficile de croire qu'il va y avoir deux nouvelles alliances. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle alliance encore pour Israël? Non, Israël doit entrer dans l'alliance que moi je suis rentré maintenant. Donc, on parle de dispensationalisme, on parle de dispensation en fait. Okay? Après le millénium, ou pendant le millénium, Dieu traite avec son peuple et revient à une autre alliance. Revient à une alliance avec son peuple juif où il traite avec eux, où il y a un temple où ils vont faire des sacrifices pour le mémorial. Les sacrifices, l'Ancien Testament nous annonçait des sacrifices d'expiation pour le péché. Alors là, dans le Nouveau Testament, ou dans le fameux millénium, ou pour les Juifs, ils vont refaire des sacrifices, mais là, ça sera pas des sacrifices pour l'expiation du péché, ça va être juste des sacrifices en mémoriel, alors que Christ est là. Ça, comme déjà, dans ma tête, ça n'a pas de sens. Mais en partant, si c'est pas des sacrifices pour l'expiation des péchés, la prophétie dans cet Testament n'est pas accomplie, là. M'excuse, là. Hein? Ceux qui croient à un accomplissement littéral de l'ancien, des prophéties de l'Ancien Testament, hein, puis que vous me dites que dans le millénium, il va y avoir des sacrifices, mais que ça sera pas des sacrifices d'expiation pour les péchés, puis vous croyez que ça, c'est l'accomplissement littéral de l'Ancien Testament? Non, je m'excuse, là. Vous faites fausse route dans votre propre interprétation, dans vos propres règles. Continuons. Donc, il est extrêmement difficile de croire qu'il va y avoir deux nouvelles alliances, une faite par Christ avec l'Église par son sang versé et une future nouvelle alliance faite avec Israël qui seront, selon les dispensationalistes, dispensationalistes ressemble à un renouvellement de l'alliance mosaïque avec le retour au sacrifice. On l'a déjà vu dans Romains 9 à 11 que Paul enseigne que l'Israël littéral doit être intégré dans la nouvelle alliance. Mais il s'agit bien de la même nouvelle alliance faite à la croix par l'Église. La promesse de nouvelle alliance faite par Jérémie, Hébreux 8, l'applique à la nouvelle alliance faite par Christ dans son Église. Et cette réalité est d'autant plus claire dans le passage qui suit, Hébreux 10, 11 à 17, où il est écrit « Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une offrande, il a rendu parfait et à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que je traitais avec eux », il recite encore Jérémie, « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Il dit que c'est nous là que c'est arrivé. Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Ces paroles rendent indiscutable le fait qu'Hébreux parle de l'alliance faite par Christ à son Église en disant que c'est l'accomplissement de Jérémie. Hébreux 10, 18. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le pardon que nous avons en Christ rend invalide et obsolète le système mosaïque. Et hors de question qu'on retourne dans une autre dispensation à la loi mosaïque. On est déjà bien au-dessus de ça en Jésus-Christ. Comme le mentionne Hébreux 8, 13, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et a vieilli est sur le point de disparaître. Ces paroles affirment la dissolution de l'ancienne alliance par une nouvelle réalité qui est maintenant là. Ici encore, on a une réinterprétation radicale des prophéties de l'Ancien Testament qui nous parle de l'impermanence de l'ancienne alliance de Moïse avec son temple et son système sacrificiel. L'argument de l'Épître aux Hébreux est que ces choses étaient des types des ombres qui pointaient vers une réalité spirituelle qui est maintenant réalisée en Christ. Est-ce qu'on attend encore autre chose? Non, on attend le retour de Christ pour l'éternité. Une fois que le type et les ombres ont rempli leur rôle, ils sont écartés dans le plan rédempteur de Dieu. Et je termine avec une conclusion rapide ici. Trois choses ressortent de notre étude. Dieu a préservé son peuple Israël qui demeure un peuple mis à part pour le plan de Dieu. C'est bien par leur chute que nous, les païens, sommes entrés dans le peuple de Dieu. Et Dieu veut encore sauver Israël selon la chair, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que ce dernier sera sauvé. Malgré ce fait, les prophéties concernant la rédemption d'Israël se sont réalisées dans l'Église. Le Nouveau Testament réinterprète les prophéties et les applique à l'Église. Nous sommes bien Israël spirituel. Il n'y a pas deux peuples de Dieu comme il n'y a pas Il n'y a pas deux oliviers, il y en a juste un. Et Éphésiens 2, 4 nous dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens nous dit qu'il n'y a pas deux peuples qui en a rien qu'un. Troisièmement, le temple reconstruit et le retour au sacrifice ne saurait en aucun cas représenter une autre nouvelle alliance. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir qui sont venues en Christ. Si le temple est en effet reconstruit, il sera par pure ignorance de la part des Juifs. advenait une conversion massive des Juifs à notre Seigneur Jésus-Christ, et il serait tout à fait inconcevable que ces nouveaux croyants retournent au système sacrificiel alors que Christ a tout accompli. Et je vais terminer ici.